Bien. Oui, donc j'ai fait des études de mathématiques et puis dès l'âge de 15 ans, je me suis aussi passionné pour la poésie. En fait, j'ai fait des revues de poésie dès l'âge de 15 ans jusqu'à la trentaine à peu près. Ensuite, je me suis lancé dans plein d'aventures, entre autres à faire travailler des poètes dans des studios de composition de musique électroacoustique. Enfin voilà, tout un itinéraire. J'ai fait aussi des études de musicologie. Ce qui fait que quand j'étais jeune, j'ai été prof de musique dans les collèges pendant quelques années, en même temps que j'étais aussi prof de maths. Et là, je suis encore prof de maths à mi-temps. Voilà, depuis 4-5 ans, je ne suis plus qu'à mi-temps. Voilà, j'ai publié entre 20 et 30 livres, je ne sais pas exactement, sous mon nom ou sous le nom de mon alter ego, Armand le Poète, dont je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce que ses rapports avec l'informatique sont totalement inexistants. J'ai quand même eu une pratique de l'informatique autrefois, mais curieusement, très très peu pour la création. En fait, à une époque, pour arrondir mes fins de mois, j'ai fait toute l'informatisation d'une entreprise. J'ai fait tout un système pendant une dizaine d'années en réseau qui permettait à l'entreprise de faire la programmation des visites. C'était une entreprise de services après-vente et qui faisait aussi les facturations, les payes. Enfin, tout était automatisé à partir d'un travail que j'avais conçu intégralement. Bon, ça, c'était une époque de ma vie. C'est vrai que ces temps-ci, je ne suis plus du tout dans des programmations ou des choses comme ça. Le travail d'écrivain, donc, s'oriente, je précise quand même, sur la poésie. Au départ, c'était vraiment la poésie. Puis, au fil des années, j'ai pris conscience de ma propre voix. J'étais quelqu'un d'extrêmement introverti quand j'avais une vingtaine d'années. Mais j'ai été amené, en tant qu'écrivain, publiant des livres, à parler en public. Et du coup, petit à petit, j'ai pris conscience de ma voix, conscience de mon corps sur une scène. Et tout cela s'est développé tout doucement. Ce qui m'a amené donc effectivement à travailler un jour dans les studios de musique électroacoustique, ce qui m'a amené aussi à rencontrer, enfin plutôt le monde du théâtre est venu à moi, c'est-à-dire que j'ai eu il y a maintenant peut-être presque 15 ans des textes qui ont commencé à être créés au théâtre, et puis maintenant je travaille assez régulièrement avec le théâtre, et avec un autre monde très très particulier que j'adore, qui est le monde des marionnettistes et du théâtre d'objets. Un univers qui se marie très très bien avec des écritures un peu denses, avec des écritures de poésie. De temps en temps, il m'arrive de faire des ateliers d'écriture, très peu. Je dirais entre 2 et 4 fois par an. Des fois, c'est une demi-journée, des fois, c'est 50 heures. À la fac, par exemple, ça m'est arrivé de temps en temps. Avec des publics très divers, ça peut aller d'enfants du primaire, du collège, du lycée, de l'université, des adultes, ou même en prison, ou même dans des écoles de théâtre, ou des choses comme ça. Ou des IUFM, etc. Voilà, et puis depuis quelques années, j'ai créé mon site web, et puis le site web aussi d'Armand, dont je peux vous donner, je crois que j'ai prévu de vous... Bon, en tout cas, voilà les adresses des sites. Je voulais dire aussi une chose là, avant de démarrer, c'est que l'intervention que je fais n'est pas du tout axée sur création numérique, mais ce que je voudrais parler plutôt de l'usage des outils informatiques pour moi dans la création littéraire, et accessoirement aussi de temps en temps pour des petites choses dans des ateliers d'écriture aussi, avec des choses très très concrètes et très simples que j'utilise parfois dans des ateliers d'écriture, enfin des petites expériences que j'ai faites. Donc ce que je vais faire là, c'est vraiment de l'ordre du témoignage. C'est avant tout un témoignage. C'est pas du tout une conférence, un essai, une démonstration, non, c'est un ensemble de petits témoignages. Alors, je voudrais tout d'abord parler du fait que dès l'apparition des traitements de texte et de l'usage des ordinateurs, donc j'étais à l'époque très jeune, j'avais une vingtaine d'années, un petit peu plus, avec les premiers ordinateurs qu'on pouvait acheter, à des prix encore assez élevés à l'époque. Très vite, il y a une chose qui m'a passionné, c'est un travail que j'ai fait sous des pseudonymes, sous d'autres noms, de créer des poèmes qui s'appuieraient non plus, pour le vers, sur le nombre de pieds, mais sur la longueur du vers, avec beaucoup de précision, avec des formes en drapeau, comme ça. Et... parce que je me suis aperçu que j'avais un fonctionnement extrêmement visuel. Et donc, chaque vers impliquait la longueur du vers suivant. Et c'était vraiment la contrainte dominante sur certains types de travaux que je faisais à cette époque-là. Donc la longueur du vers. Et tout ça, évidemment, n'est permis sur des machines à écrire traditionnelles. Ça ne marchait pas vraiment. À la main, évidemment, ça marche pas, ça n'a aucun intérêt. Ça ne pouvait marcher qu'avec l'apparition des premiers traitements de texte. Et puis, petit à petit des textes avec des formes un petit peu plus en losange. Alors là, par exemple, j'en ai extrait quelques-uns. Alors là, très très légers, ça c'est des textes extraits d'un livre qui s'intitule « Jonas Orphée », qui est un texte pensé en 147 fragments pour le théâtre. C'est un texte de théâtre qui a été créé au théâtre par deux équipes différentes. Donc le principe, c'est qu'une équipe de théâtre s'empare d'un certain nombre de fragments, une quarantaine sur les 147, et fabrique un spectacle. Alors en général, ils prennent une quarantaine de fragments sur les 147, ce qui fait un spectacle qui va durer entre une heure et une heure et quart. Il est quasiment impossible d'utiliser tous les fragments. Alors voilà par exemple un très court fragment qui a déjà une petite forme. Alors là, le losange n'est pas vraiment existant. Ce qui m'intéresse aussi ici, c'est de l'idée que c'est quand même du texte pour le théâtre. C'est-à-dire qu'à la fois on a quelque chose qui est visuel, mais on a aussi quelque chose qui est vraiment dans l'oralité. Et pour les acteurs, cette question qui se pose de comment gérer ces retours à la ligne, comment gérer ça. En voici un autre, avec une forme un petit peu plus proche d'un petit triangle, le numéro 39. Là, j'ai extrait certains passages, ils ne sont pas tous en triangle, évidemment. Je n'ai sélectionné que ceux qui avaient une forme un peu visuelle. Il y a aussi des passages qui sont vraiment des blocs de prose ou des dialogues. Alors là, on ne le voit pas en entier. J'espérais qu'on le verrait en entier. Je fais apparaître les solides de Platon dans ce texte de théâtre. Alors, sous forme développée ou sous forme en perspective. Avec des poèmes, là on voit un poème qui n'a pas une forme extrêmement précise, mais quand même pour lequel la longueur du vers joue un rôle important. Alors là, par exemple, celui-ci, je pourrais le lire de cette façon suivante. Cet hôtel au bord de la mer n'existe pas, le lit n'existe pas, la salle de bain n'existe pas, la lumière qui nous vient de la fenêtre n'existe pas tant que nous n'aurons pas fermé les yeux. Et alors, vous remarquez aussi que souvent, j'aime accompagner les choses par des gestes. Alors ce petit texte est amusant aussi, il a une forme un petit peu particulière, là c'est une combinaison à la fois d'une forme d'une suite de petits triangles, mais avec une idée de permutation des voyelles. Et ça donnerait ceci. Un autre objet avec une forme un petit peu plus en losange et qui commence à introduire peut-être des difficultés pour les acteurs. J'ai emprunté ce corps pour vous dire que l'important dans ce corps raconte n'est pas ce qu'il corps raconte, mais tout ce corps informe au fond de ce qu'il corps raconte. Un autre, le même d'ailleurs, un petit peu plus loin dans le texte, avec ce découpage. Là, deux petits poèmes, numéro 99, qui ressemblent presque à des haïkus, un petit peu, avec des animaux. Un petit poème beaucoup plus simple, en quatre lignes. Alors là, on ne le voit pas, mais oui, parce que les... Voilà, c'est Eurydice qui parle. En fait, il y avait huit acteurs dans ce spectacle. Donc Eurydice nous dit « Attends et sois patient, il faut un peu d'usure pour que les corps s'emboîtent ». En fait, c'était une commande de théâtre au départ sur ce qui se passe dans le ventre de la baleine pendant 3 jours. Donc j'ai travaillé sur le personnage de Jonas, et puis petit à petit je me suis aperçu évidemment que c'était Orphée, parce que évidemment il y avait une femme qui était Eurydice. Et donc le titre du livre, Jonas Orphée, avec cette confusion d'univers qui ne sont pas les nôtres, soit le royaume des morts, soit le ventre de la baleine. Là, on voit un solide aussi, avec une petite forme en losange. Avec les découpes des vers ici, qui commencent à être un petit peu plus surprenantes. Les morts ont cet avantage sur les vivants qu'ils parlent indéfiniment par les moindres recoins du corps. Et celui-ci, qui est encore un petit peu plus compliqué pour les acteurs, c'est un travail... les acteurs aiment souvent bien avoir des difficultés, et là il y en a. certes, un hors continu de parler et sans être conscient du fait que ce qu'ils disent à jamais s'articule sans entre et touche outre et loin du corps. Alors, en fait, j'ai découvert que ces petits poèmes en losange ont un intérêt pédagogique. Enfin, la technique du losange est extrêmement intéressante en atelier d'écriture. L'idée est la suivante, je demande à... Ça peut se faire au collège, au lycée, ça peut se faire avec des adultes, à tous les âges. En fait, je demande aux jeunes, disons que c'est des jeunes, admettons, de construire sur le papier, à la main, un texte ayant une forme de losange. Ensuite, on part en salle informatique. Et je leur dis maintenant, vous saisissez votre texte sur l'écran avec en mettant en centrant et vous regardez ce qui se passe. Et là, ils s'aperçoivent que leur losange n'est pas parfait. Et donc, ils rentrent dans une logique et ils rentrent dans une logique où il faut changer des mots. Il faut changer des mots pour avoir une forme qui soit vraiment intéressante et jolie. Donc là, tout d'un coup, ils se mettent à travailler le texte. Ils se mettent à le remettre en question, changer des mots, réfléchir, bricoler tout ça. Puis quand ils sont contents d'eux, j'arrive, je regarde, et puis je leur dis, bah, tu sais, là, quand même, il y a un problème, c'est que t'as une faute d'orthographe, là. Et du coup, tout d'un coup, ça marche plus. On corrige la faute d'orthographe, ça marche plus. Donc, il faut à nouveau rentrer dans une logique de modification. Donc, ça amène plein de choses intéressantes. D'abord, un retravail sur le texte. Ça amène ensuite un questionnement sur l'orthographe assez souvent, qui est quand même intéressant. Et puis, ça amène aussi des poèmes à la fin qui sont souvent très, très jolis. On a beaucoup de réussite. Enfin, moi, il y a plein de choses magiques avec ça, parce que finalement, la contrainte est à la fois assez libre et en même temps assez forte pour que des choses étonnantes se produisent. Une autre chose que je voulais vous montrer. Alors, j'ai pris, il y a maintenant pas mal d'années, je publie des textes en livre ou en revue, et puis j'ai pris souvent l'habitude, pour certains textes, de les reprendre, et d'en publier dans d'autres revues ce que j'appelle des formes concassées. C'est-à-dire, je prends le texte, et avec une technique que j'ai trouvée sous le logiciel Word, je les concasse, je les massacre en fait, et je leur donne un aspect qui est tout à fait étonnant, surprenant. Alors, je vais vous donner un exemple qu'on va développer un peu. C'est ce petit texte, qui est devenu une carte postale. Alors, j'arrive pas à l'afficher complètement. Voilà, enfin là on a à peu près la dimension de la carte postale. Alors à l'origine, c'est un texte qui a cette allure-là. C'est un texte que je lis assez souvent en public. Alors là, il est en petit, des fois je le mets en plus grand, des fois je le pose au sol, et puis avec les gestes, j'accompagne la largeur des vers. En fait, c'est un poème d'amour. Un petit poème d'amour très très simple. Souvent, je le donne aussi avec une voix sur les haut-parleurs. Je le dis en direct, mais il y a ma voix aussi sur les haut-parleurs qui le prononce en décalage, comme en écho. Soit ma voix en direct est en écho de l'enregistrement, soit l'enregistrement est en écho de ma voix. Donc il y a un jeu comme ça. Et voilà, donc ça c'est en performance, lecture de ce texte sur un dispositif comme ça, à la fois sonore et en partie visuel avec les gestes. Ce texte-là, je l'ai groupé en un bloc de prose. Et j'en ai fait cette version. Et la technique est la suivante avec Word. C'est que, alors je ne sais pas si je vais y arriver, là j'y arrive pas toujours. J'ai trouvé qu'avec une combinaison de touches, ah zut, comme c'est pas mon ordinateur, je sais pas si ça va marcher, c'est assez capricieux, non. Ah bah j'y arrive pas, j'ai pas ma souris habituelle. En fait j'ai une technique qui me permet en fait de sélectionner un bloc à l'intérieur, comme ça, totalement au hasard. Donc je sélectionne un rectangle là-dedans, mais vraiment en coupant dans les mots, je prends un rectangle ou un carré là-dedans. Je l'extrais. Donc après, le bloc de prose se recompose de façon un peu aléatoire. Et après, ce que j'ai extrait, je le recolle au milieu. Et alors, le principe, c'est qu'en général, je commence par laisser la première et la dernière ligne à peu près OK. Je coupe un bloc là-dedans. J'extrais, je recolle. Puis après, je coupe en laissant libre les deux dernières lignes. Je recolle au centre. Je coupe en laissant libre les trois dernières lignes. Je recolle au centre. Et petit à petit, on obtient un texte qui est lisible sur le début et sur la fin, et qui, sur la partie centrale, est complètement fracassé. Moi, j'appelle ça concassé. Voilà. Donc ça, c'est une étape. Cette carte postale-là, celle-ci, enfin, que j'ai ici, voilà, a beaucoup circulé, en fait, parce que ça donne un petit texte d'amour. On voit au début, je t'aime, j'écris, je t'aime, et puis petit à petit, ça devient complètement destroy, ce qui n'est pas totalement illogique, finalement, avec une idée de... Bon. Et la dernière étape, c'est que je me suis amusé à essayer de lire ça en public, ce qui est a priori à peu près impossible, parce que c'est découpé totalement au hasard. Et j'en ai fait une lecture il y a 2 ans au Festival de Sète, dans le sud de la France, avec une accordéoniste, une lecture qui était faite en impro, totalement en impro, tous les deux. Donc ça dure 1 minute 50, je crois. Ça a été enregistré sans que je le sache. Je ne savais pas que c'était enregistré, quelqu'un a enregistré. Et de fil en aiguille, j'ai découvert un jour par une amie, je ne l'ai même pas su, j'étais même pas au courant, que ça a été publié dans le magazine littéraire, le numéro de l'été dernier, là dans lequel il y a un CD. Voilà, il y a un CD, et puis là-dedans, j'ai découvert que ma pièce était... voilà, ça fait partie des surprises des fois de l'itinéraire d'un poète. Et je vais vous le faire entendre. Voilà, donc ce petit extrait sonore. Ça marche. Je t'aime, j'écris, je t'aime. J'écris... Je dis, j'écris, je t'aime, j'écris, je dis, j'écris, je t'aime, j'écris, je dis, j'aime et t'aime encore, je t'aime et j'écris encore, je t'aime et j'écris tôt, jeune encore, un peu plus tous les jours, je t'aime et j'ai tous les jours, si je t'aime pour t'écrire ou si j'aime t'écrire, j'aime t'écrire, j'aime t'écrire, toi, je t'aime, toi, j'y pour toi, j'écris pour toi, dans toi, tous plout au fond de tes cris pour écrire, toi, rien que toi, tout haut. Au rire ne va sans ce rien, ne va sans se dire. Tes yeux, je suis à la tout au fond, sans rien faire. Te je là, sans briser des verrières. Tun stit, escrit, scrit, sans rien, spacrir. Ut bot ut, un skis, huit, je se obet, rien, même toujours. Et c'est le fond d'un cruche, pas entre tout ce qui est tous le nuet, et rien entre ce que je ne nuit autour d'eau dans tes mobiles. Je te fais que tu fais. J'aime aucun âge d'amour qui te fait pas que c'est ton dire votre à Mars Fontella un mérite même si tu pleures si tu qui me colle à la peau tout ce qu'il a je sens tu te tout où tu dis où j'ai su crier fou fort bord de toi et sous les côtes t'écris le uns et t'il a et me beau te parle de toi en moi dis je t'amuse monde au bord et se dit au beau brigeau tout ce qui se prême assime ce qui en moi dit ce qui en moi hors de et dit je t'aime et répète ne sais plus rien je t'aime dire haute toi je t'aime une nuit rio je ne sais plus me dicter d'autres et n'a titre je n'écule rien d'autre si ce que si je t'aime toi je répète je crie tout doucement je t'aime toi. Je t'aime. Je t'aime. Voilà, je pense que le son était un petit peu doux, mais ça allait, non?
Voilà, donc, pour ces histoires de textes concassés.
J'ai fait autrefois une seule expérience qui relèverait peut-être d'un travail de création numérique, un petit peu. C'était il y a une quinzaine d'années, en fait. J'avais créé à la Villa Gilet une installation, en lien avec le GMBL, d'ailleurs, et Bernard Faure, qui était là hier. J'avais créé une installation dans laquelle on avait 8 haut-parleurs dans un salon de la Villa Gilet et des petits fragments, des petites phrases qui, en continu, sortaient de façon aléatoire sur les 8 haut-parleurs. Voilà. Avec un travail évidemment littéraire sur ces petites phrases, mais avec ce travail du hasard. Voilà, j'ai toujours rêvé de développer ça, mais en fait ça s'est jamais présenté. J'adore travailler sur le hasard, peut-être en tant que matheux. J'adore ça et je l'ai jamais fait. L'étape suivante, c'est le travail en studio. Je travaille dans des studios de composition électroacoustique. Je travaille sur un logiciel essentiellement qui s'appelle Pro Tools. Et là, la première petite remarque que je voudrais faire, donc qui est un outil informatique, hein, là c'est un outil encore. Ce qui me semble intéressant à noter, c'est ce que j'ai remarqué assez vite, c'est que je travaille au bout du compte des phrases parlées, enregistrées. Au bout du compte, exactement de la même façon que des phrases écrites. C'est-à-dire, je travaille dans Pro Tools et dans Word de façon relativement similaire, c'est-à-dire en copier-coller. Et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre l'oralité et l'écrit, là, au niveau de la manipulation des phrases. C'est-à-dire qu'on travaille de l'oralité comme on travaille de l'écrit. Il y a tout d'un coup une proximité qui s'installe. Voilà. Travaillant en studio, ou travaillant en traitement texte, ou travaillant sur Pro Tools... j'ai le sentiment souvent que c'est un peu, c'est pas si loin que ça, quoi. Alors après, le rendu est différent. Dans le papier, on est prisonnier du plan, on a un rapport au temps qui est très particulier. Sur Pro Tools, on peut empiler la parole, ce qui évidemment est impossible sur le papier. Enfin bon, là, on a un rapport dans l'espace qui est différent. Mais dans le travail, finalement, c'est assez voisin, avec les outils d'aujourd'hui. Là, je vais vous faire entendre des extraits d'une pièce qui date de 88, donc qui est quand même très ancienne, et qui a été réalisée à l'échantillonneur, au sampler. Donc l'idée, c'est que, et à l'époque, les sampleurs étaient assez rudimentaires encore. C'est-à-dire que l'idée, c'est que je rentre des phrases dans la machine, qui sont mises en mémoire, et qu'ensuite je peux restituer à l'aide d'un clavier, par exemple, d'un clavier de piano, et ensuite je peux jouer avec ces phrases. Alors les empiler, évidemment, créer des rythmiques, mais je peux aussi les envoyer dans les aigus, les envoyer dans les graves. Et voilà. Donc cette pièce a été créée en 88, elle était jouée en direct. Alors en 88, les gens n'y croyaient pas, les gens étaient convaincus que c'était enregistré, puis que je faisais semblant de faire des trucs avec mon clavier. Les gens ne croyaient pas que c'était fait en direct. Voilà, donc je vais vous faire entendre quelques extraits de cette pièce très ancienne et qui est faite avec des échantillons sonores.
La profusion des paramètres, le phénomène et le noumen.
Donc là, dans
la
un premier temps,
entretenue.
Je présente les échantillons sonores.
Donc les mises en abîme,
en fait,
le rire et la fatigue.
Une minute trente. J'étais vraiment
tant
très
de choses
limité
à dire.
Et après, à partir de ces seuls échantillons, est créée toute la pièce.
Donc la fusion,
J'ai oublié de donner le titre de la pièce, qui s'intitule Le désordre.
L'extrême complexité.
Le texte, écoute. Le désordre, écoute.
Ça a coupé. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Je vous emmène un petit peu plus loin. En fait, on a un son qui n'est pas très très bon là. En fait, c'est un très bon son. Et deuxièmement, on a, je crois, très peu de stéréo, alors que c'est très stéréo. Donc vous avez quand même une écoute assez réduite. Je vous emmène un tout petit peu plus loin. Alors là, vous avez des sons qui peuvent sembler électroniques, mais qui sont toujours uniquement faits avec ces échantillons de départ. Cette version a été faite à partir d'une improvisation, effectivement, au clavier. Alors là, on a des sons assez fins qu'on ne doit pas entendre beaucoup. Voilà, donc là, on a... Vous remarquez qu'il y a tout un certain nombre d'échantillons qui ont été faits uniquement... Enfin, tout ce passage a été fait uniquement avec les deux échantillons, les mots, les paquets vides, les mots, les paquets pleins. Il m'est arrivé... J'ai voulu ensuite refaire cette pièce sur un ordinateur plus récent, avec d'autres prises de son. Et en fait, je me suis aperçu que ça ne marchait pas du tout. Qu'en fait, l'échantillon de départ est très important, et quelquefois, que le fait qu'il soit de... Enfin, à très peu de choses près, ça marche ou ça marche plus, quoi. Je crois que c'est ce que disait Bernard Faure aussi au départ, c'est que hier, c'est que quand on utilise un matériel sonore comme ça, on ne sait jamais, tant qu'on ne l'a pas testé, ce que ça va pouvoir donner. En particulier quand on l'envoie dans les aigus ou dans les graves, les attaques en particulier jouent un rôle extrêmement important. Et on n'attaque jamais deux mots de la même façon. Enfin, le même mot même, on n'attaque jamais deux fois de la même façon. Voilà, maintenant j'enchaîne avec un témoignage. C'est un atelier d'écriture, là je passe complètement à autre chose. C'est un atelier d'écriture que j'avais fait il y a quelques années par internet avec une classe de primaire, voilà, dont j'ai un souvenir assez étonnant. J'avais trouvé l'expérience intéressante. C'était une classe de la Croix-Rouge, je crois que c'était des CM2. Et j'ai eu un contact avec l'institutrice par mail, en fait. Tout s'est joué par mail. Et l'idée, c'est qu'elle faisait écrire les enfants sur des poèmes, et les enfants m'envoyaient les poèmes par mail, et on voyait ce qui se passait. Et tout cela, on travaillait comme ça pendant 2 mois, simplement par échange, et à l'issue des 2 mois, on se retrouvait une après-midi au château de Saint-Genis-Laval, je crois, il y a un château là-bas, hein. On se retrouvait dans une salle là-bas, non, dans le parc, là. Voilà. Voilà, c'est ça. On se retrouvait là-bas pendant une demi-journée avec tous les enfants, et là on discutait, on se rencontrait, on parlait des poèmes, etc. Alors d'abord, l'initiative commence, donc l'institutrice les fait écrire, et je reçois les poèmes, et là j'avais des poèmes, alors je ne sais pas exactement quelles contraintes elle leur avait données, mais le vocabulaire était extrêmement empoulé, c'était des poèmes d'amour, souvent avec vraiment tout le vocabulaire de la poésie d'amour, c'est-à-dire amour, absolu, éternité, enfin tous ces mots incontournables. Et j'étais un petit peu embêté, ça, je trouvais que c'est bon. Et je dis à l'institutrice, je vous propose un fonctionnement, c'est que je renvoie aux enfants les poèmes, puis je mets des mots en couleur, et tous les mots en couleur, je leur explique, c'est-à-dire je mets un courrier aux enfants, et je leur dis, tous les mots en couleur, ben vous pouvez, si vous voulez, essayer de les changer, mettre un autre mot à la place. Et puis si vous n'avez vraiment pas d'idée, ben vous mettez n'importe quoi. Puis si vous n'y arrivez vraiment pas, vous ouvrez un dictionnaire à n'importe quelle page, vous prenez le premier mot qui tombe et vous le mettez à la place. Et l'instit me répond, elle me dit, mais c'est une catastrophe, moi, depuis le début de l'année, j'essaie de leur apprendre à mettre du sens dans les poèmes, dans ce qu'ils écrivent. Alors là, je fais une longue lettre, je lui explique que ça vaut quand même le coup de tenter, d'essayer, quoi, de voir ce qui se passe. Et puis là, pendant 15 jours, j'ai plus de nouvelles. Et un jour, je reçois un message, j'arrive plus à les arrêter. Enfin bon, c'était devenu une forêt, quoi. Les gamins étaient partis, mais à fond. Voilà, et là, ça a continué. Donc, ils m'envoyaient les poèmes, je mettais des couleurs, on continuait comme ça. Et puis, on s'est retrouvés au château de la poupée. Et alors là, ça a été une expérience assez inoubliable. On se voyait pendant 2 heures. Il y avait une 30aine d'enfants. Il y avait l'instit et puis son assistante. Et les enfants, pendant 2 heures, ont lu des poèmes. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y en avait un dans le groupe qui s'était institué comptable. Et donc il comptait. Et à la fin, il nous a dit qu'on a lu 83 poèmes en 2 heures. Donc chaque enfant lisait. Alors soit lisait son poème, soit lisait le poème d'un copain. À chacun leur tour, très sagement. Voilà. Et puis il y a eu 2 moments très émouvants. Et des enfants qui étaient d'ailleurs à côté de moi. Il y a eu un petit garçon à un moment qui demande à lire et qui ne savait pas lire en fait. Et qui a mis 1 minute à lire un poème qui faisait 3 lignes. Mais il y avait un silence religieux d'écoute. Et bon, c'était assez magique. Mais plus étonnant que ça, il y avait une petite fille à côté de moi qui tout d'un coup lève la main pour lire. Et là, je vois l'instit qui pleure. Et bon, et la petite, elle lit. Et puis la matinée continue, puis bon, tout cela se finit, puis je vais voir l'institutrice et je lui demande « Mais pourquoi vous avez pleuré tout à l'heure ?» Et là, elle me dit « C'est la première fois depuis le début de l'année que j'entendais cette fille, cette gamine ouvrir la bouche. » C'était la première fois qu'elle avait parlé dans la classe. Voilà, donc des moments comme ça qui peuvent avoir un rôle important sur plus d'un titre. Voilà, et ça se jouait par le net au départ. Une autre expérience avec le net, et cette fois-ci il s'agit d'une performance. J'ai un texte qui s'intitule « Pour ne pas mourir », qui est mon texte qui peut-être circule le plus, qui est constitué simplement de 100 phrases, qui se termine par « Pour ne pas mourir », et que j'ai l'habitude, qui est un texte très ancien, qui doit avoir maintenant au moins 15 années, je pense, et que j'ai l'habitude de lire en démarrant tout doucement, et puis il faut qu'il y ait une montée en intensité. Alors il faut qu'il y ait autour de moi des phénomènes sonores qui se développent, qui s'amplifient, et je lis un certain nombre de phrases, pas les 100, ça dépend, selon l'inspiration. Et à la fin, je crie comme un fou pour dominer le vacarme autour de moi. Alors ce vacarme peut être créé soit par des musiciens, et ça peut être vraiment du vacarme, soit par différents dispositifs, des gens qui jouent de la guitare électrique et qui ne savent pas en jouer, ou des sculpteurs en train de travailler en mettant la radio et en utilisant des perceuses. Ça peut être des danseurs aussi qui font beaucoup de bruit, mais qui aussi même viennent me déranger, m'enlever mes chaussures, me coiffer, me déshabiller ou que sais-je. Et là, au Québec, j'ai une expérience qui était assez belle. J'étais invité aux rencontres internationales d'art performance à Québec. Et je voulais finir par ce texte. Et j'ai pris contact par le net avec une quinzaine de personnes sur la ville de Québec. Des personnes qui, par des biais divers, par des entrées diverses, des personnes qui ne se connaissaient pas entre elles et que moi je ne connaissais pas. Et je leur ai expliqué la règle du jeu, qui était la suivante, c'est qu'à la fin de ma performance, je commençais à lire ce texte, et là, quelqu'un arrivait du public, et se mettait à lire aussi le texte, à côté de moi, comme si j'étais pas là, les extraits qu'il voulait, comme il voulait. Et puis une deuxième personne arrive, et puis une troisième, une quatrième, et comme ça, à la fin, on était 15 sur le plateau, moi j'étais au milieu, à crier comme un fou, et on était 15, on se connaissait pas, et on a fait une performance magnifique. Et tout ça, grâce au net quand même. Je pense que sans le net, j'aurais pas pu le faire, bien sûr. Donc une utilisation encore de l'outil informatique détourné, mais pour des performances. Voilà, ensuite, j'ai un petit peu des idées à venir. Par exemple, j'ai l'idée de, mais que je n'ai pas encore développée, mais qui tourne dans ma tête et qui va être réalisée assez vite, d'un texte que je mettrai sur mon site, et qui serait en devenir permanent. C'est-à-dire un texte que, éventuellement, je publierai de temps en temps en revue, mais avec l'idée qu'il n'est jamais fini et qu'il change tout le temps, et que quand on vient sur mon site, on peut voir où il en est à telle date. Et en particulier, je pense pour ça à un texte qui est une longue suite de phrases interrogatives, et que je ferai bouger en permanence, comme ça, probablement jusqu'à la fin de ma vie, à le modifier comme ça tout le temps, régulièrement, parce que je suis quelqu'un qui adore travailler et reprendre et modifier ses textes, et l'idée de pouvoir le faire sans qu'il y ait vraiment une butée d'édition, parce que finalement, quand un livre est publié, souvent c'est fini, le travail est fini pour moi. Et là, tout d'un coup, un texte pour lequel le travail ne serait jamais fini. Ça me plaît beaucoup. Voilà, et puis je voudrais dire aussi que souvent le texte, chez moi, navigue entre les yeux et l'oreille. C'est-à-dire, petit à petit, j'ai développé ces deux dimensions. Quand j'étais jeune, je travaillais, pour moi, un poème, c'était un rectangle. C'était vraiment un rectangle. J'étais quelqu'un, d'ailleurs, de très introverti. J'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Donc, le texte était vraiment quelque chose de visuel. Puis, petit à petit, j'ai développé la dimension orale, parce que j'étais aussi musicien, quand même, un petit peu. Donc, j'ai développé les deux. Et là, aujourd'hui, les textes ont vraiment ces deux dimensions, à la fois très visuelles et à la fois beaucoup dans l'oralité. Et évidemment, on pourrait parler souvent un petit peu, on citait Bernard Heitzig avec les poèmes partitions, l'idée que le texte devient effectivement une partition. Et je pense que certains de mes livres, c'est le cas par exemple de Jonas Orphée, qui pour moi, même si l'apparence est assez classique en fait, enfin pas tellement, surtout pour un texte de théâtre, mais quand même, c'est aussi une partition. Et d'ailleurs, j'ai fait une création de ces textes il n'y a pas longtemps à Dijon avec une chorale. C'était là 15 personnes sur scène, j'ai travaillé aussi avec une chanteuse, avec Valérie Philippin, et on a créé un spectacle comme ça avec toute une chorale et ces textes-là travaillés de différentes manières, quelque part entre le chant et la poésie sonore et la performance. Avec toutes les questions que ça pose d'ailleurs de créer un spectacle de poésie sonore avec une chorale qui est quand même un peu loufoque a priori. Mais bon, ça pose des questions intéressantes, on se les est posées, on a exploré ça. Voilà, je citerai aussi volontiers au niveau de la calligraphie le travail de Jacques Robotier, Jacques Robotier qui est un compositeur et avec certains de ses livres où on voit les lignes petit à petit se balader dans la page et devenir réellement aussi des partitions, c'est-à-dire donner visuellement un aperçu de ce que ça doit donner dans l'oreille, de ce que ça peut donner dans la bouche. Voilà, et puis dans mes études de musique aussi, j'ai une petite anecdote qui est amusante. Un jour, on me demande, j'étais en licence de musicologie, et pour un examen, on me met dans les mains une partition de Schoenberg, partition d'orchestre. Mon niveau de solfège n'était pas extraordinaire. Autant vous dire que devant une partition de Schoenberg, j'étais vraiment mais complètement largué, quoi. Je ne pouvais pas entendre, je n'avais pas les capacités. Et donc j'ai fait ce travail uniquement de façon visuelle, évidemment sans le dire. J'ai interprété la partition complètement avec les yeux. Et en fait, ça marchait très bien. Et je pense que le lien entre l'œil et les rythmes, et l'œil et la musicalité de la langue, l'œil et ce qui joue sur le papier et ce qui joue dans l'oreille, tout ça est très très lié, et peut-être plus que jamais. Voilà, je dirais encore un tout petit mot. Sur mes deux derniers livres, avec un petit artifice typographique intéressant, c'est presque rien, c'est une toute petite chose, mais ces deux derniers livres, il y a un usage des parenthèses qui est très très particulier. Alors évidemment, là, je ne peux pas vous le montrer d'ici. En fait, vous avez, c'est de la prose, mais je me suis aperçu que la prose, ça ne me plaisait pas. Je trouvais ça trop dense, avec une ponctuation traditionnelle, je trouvais ça dur. Et dans ce texte qui s'intitule « Le corps du paysage », c'est un texte sur lequel j'ai travaillé 15 ans, donc j'ai vraiment eu le temps d'y réfléchir. C'est un texte dont je me suis aperçu petit à petit que j'essayais d'explorer le fonctionnement de la pensée. J'essayais de capter en direct comment la pensée... Bon, ce qui est évidemment impossible, parce que je pense que dans notre tête, c'est irréductible déjà au plan, ce qui se passe dans notre tête. Mais bon, j'ai voulu quand même tenter ça. Et donc, j'ai remplacé petit à petit... Enfin, en tout cas, j'ai introduit à l'intérieur des blocs de prose des parenthèses avec du vide. C'est-à-dire, mes respirations, c'est pas des points, c'est pas des points-virgules, c'est pas des virgules, c'est des parenthèses vides. Et tout ça a été rendu possible en utilisant les caractères. Vous savez, on peut avoir l'espace blanc soit qui disparaît, enfin qui en fin de ligne par exemple, ou alors l'espace blanc qui est fixe. En fait, en alternant les deux à l'intérieur d'une parenthèse, ça me donne un écartement entre les parenthèses qui est fixe et qui peut très bien être coupé en fin de ligne. On peut très bien avoir, ça respecte en fait au niveau typographique, ça fonctionne en tout cas. Voilà, donc il y a ce jeu typographique qui m'a été rendu possible aussi par un usage un petit peu singulier du traitement de texte, tout simplement. C'est très peu de choses, mais... Et du coup, mes deux derniers livres... Alors, ce livre-là, je me sers de ça avec l'idée que ça... C'est une façon d'essayer de capter les trous qu'on a dans la tête entre deux pensées, les trous syntaxiques, les trous... Toutes les sortes de bascules, les souffles aussi, les rythmiques, les respirations, les blancs. On peut l'interpréter comme ça et de multiples manières. Et je le retrouve encore dans le livre suivant, mais... peut-être lu de façon un peu différente, surtout comme des respirations, à la fois visuelles et dans le souffle, dans la parole. Voilà. Voilà, j'ai essayé d'explorer pour vous, je me suis posé des questions ces derniers jours de mes rapports avec l'ordinateur, donc voilà, j'ai exploré un peu ça, mais en fait je me suis aperçu que c'est une toute petite partie de mon travail. En fait, si on avait développé du côté de la musique ou du côté des marionnettes ou du théâtre, ou si on avait développé sur l'aventure singulière d'Armand le Poète, par exemple, il y aurait eu encore beaucoup plus de choses à dire, mais là, je me suis centré sur ordinateur. Donc, je ne parle pas du tout d'Armand, quoi.